Aujourd'hui, donc, nous recevons l'amiral Jacques Langsade. Après avoir commandé des navires de surface, il a été nommé contre-amiral, affecté comme adjoint du commandant en chef pour la Méditerranée, enfin commandant des forces maritimes françaises de l'océan Indien. Il a été ensuite, à partir de 88, chef du cabinet militaire du ministère de la Défense. Enfin, en 89, chef de l'état-major particulier du président de la République. De 91 à 95, il a été chef d'état-major des armées. Et jusqu'en 99, il a été ambassadeur de France en Tunisie. Amiral, nous vous écoutons.
Mesdames et messieurs, le 9 novembre 1989, tombait le mur de Berlin et cet événement considérable qui marquait la fin de l'Empire soviétique et de la guerre froide engageait un véritable bouleversement de l'équilibre mondial. Il est très heureux, je dirais, était presque miraculeux que ce changement considérable se soit réalisé sans violence. Et nous le devons pour une part aux responsables politiques qui géraient à cette époque les affaires du monde. Il se trouve qu'ils avaient tous connu les drames de la Seconde Guerre mondiale et ils connaissaient le prix de la paix. Ce bouleversement a fait naître le rêve d'un ordre international tourné vers la paix, la stabilité et le développement. Quelle est la réalité 10 ans plus tard ? Qu'est devenu ce rêve ? Que sera notre avenir ? Et telles sont les questions qui sont au cœur de notre débat de ce soir. Au temps de la guerre froide, l'ordre international était caractérisé par la confrontation entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est, et il était régulé par la dissuasion nucléaire. 5 puissances nucléaires, membres permanents du Conseil de sécurité, où elles avaient un droit de veto, qu'elles ont toujours, constituait une sorte de directoire suprême, une sorte de G5 stratégique, si on emploie le langage d'aujourd'hui. Cependant, en réalité, tout était dominé par la relation spéciale que leur capacité de dissuasion nucléaire imposait aux deux superpuissances, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, qui constituaient une sorte de condominium. L'équilibre stratégique était celui de la terreur et il était garanti par la stricte application du traité sur les missiles antibalistiques et par la mise en œuvre des accords de limitation, SALT, puis de réduction, START, des armements nucléaires. Il fallait en effet qu'aucun des deux grands ne puisse obtenir à un moment donné une supériorité sur l'autre, ce qui aurait comporté le risque qu'il soit tenté d'en user. Dans le même temps, chacun des deux blocs cherchait à accroître la zone qu'il contrôlait dans le monde et ainsi aucune partie de la planète n'échappait de fait aux règles de la bipolarité. Cet ordre international était évidemment injuste, mais il était relativement stable, dans la mesure où les crises et les conflits qui survenaient devaient être soigneusement contenus dans leur extension géographique d'abord, sinon dans leur violence, afin qu'ils ne mettent pas les deux superpuissances en confrontation directe. Et c'est ce monde bipolaire qui disparaît en 1989, à partir de la chute du mur de Berlin, puis de l'éclatement et de la disparition de l'Union soviétique. Et un nouvel ordre international commence à s'établir. Une seule superpuissance, certains diront hyperpuissance, subsiste, ce sont les États-Unis. La dissuasion nucléaire continue d'exister, mais elle perd sa fonction régulatrice et les conséquences en sont très importantes, car aucun autre système de régulation ne se met réellement en place. Le système de l'économie libérale s'impose et il détermine désormais les motivations principales des acteurs internationaux. Ainsi, d'une certaine façon, la confrontation économique se substitue à la confrontation stratégique, mais elle n'en assure malheureusement pas la fonction de régulation. Et ce processus de dérégulation de l'ordre international, que nous voyons se développer à partir de 1989, est amplifié par le développement technologique et notamment par les progrès de l'information qui font que le phénomène de globalisation affecte l'ensemble des activités mondiales. L'interdépendance est aujourd'hui telle entre les différentes régions du monde que toute crise qui éclate en un lieu a des répercussions immédiates dans le reste de la planète. La régulation politique du nouvel ordre international devrait être celle des Nations Unies, agissant au nom de la communauté internationale, comme viennent d'ailleurs de le rappeler les chefs d'État réunis à New York. La France s'est efforcée, à partir de 1989, de donner au Conseil de sécurité des Nations Unies un rôle central dans la gestion de la paix. Elle s'est engagée très fortement, vous vous en souvenez certainement, au Cambodge, en Somalie, en ex-Yougoslavie, mais elle s'est retrouvée relativement isolée. Elle s'est heurtée à la réticence des grandes puissances et notamment à celle des États-Unis qui ne souhaitaient pas mettre leur politique sous le contrôle d'une organisation dont ils considèrent aujourd'hui qu'elle doit être réformée. Quant à la révolution économique, qui est la responsabilité des institutions de Bretton Woods, auxquelles sont venues s'ajouter les activités des G7 et G8, elle a donné longtemps le sentiment d'être inefficace et il a fallu attendre les crises économiques en Asie pour que la situation commence à se modifier. Cette absence de régulation a des conséquences très importantes car elle favorise le développement de l'instabilité dans le monde et la propagation de nouveaux risques. Les crises liées aux rivalités entre les États ou entre groupes ethniques ou religieux se multiplient, comme le montrerait une analyse géographique qui n'a pas sa place ce soir. Les zones les plus pauvres du monde, dont l'intérêt stratégique a beaucoup diminué, ne sont plus les bénéficiaires d'une coopération politique et surtout économique, et le sous-développement, s'y accroît. Le terrorisme, la drogue, les mafias trouvent dans ce monde instable des terrains propices à leur extension, tandis que la prolifération des armes de destruction massive ne s'est pas significativement ralentie. Ainsi, alors que l'on avait espéré en 1989 un monde régi par la communauté internationale et orienté vers le maintien de la paix et le développement, tout se passe comme si l'on revenait au conflit des intérêts et donc au jeu des puissances. On peut et on doit cependant avoir une vision plus optimiste de l'évolution du monde en disant que nous vivons une période de transition qui nous mènera à un nouvel ordre international qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais il faudra pour cela trouver les moyens d'assurer la régulation politique et économique par la communauté internationale, c'est-à-dire par un ensemble d'institutions au sommet desquels se trouveront effectivement les Nations Unies, avec un Conseil de sécurité sans doute rénové, comme semblent en avoir d'ailleurs convenu les chefs d'État qui étaient réunis à New York. Il n'est pas certain en effet qu'un monde qui serait géré par un consortium de quelques grandes puissances, celle du G8, puisse être un monde stable si le moyen n'est pas trouvé d'y associer l'ensemble de la communauté internationale. Alors, dans ce monde en transition, quels sont les types de conflits auxquels nous pouvons être confrontés? Clausewitz distinguait les guerres totales des guerres limitées. Mais il était de son temps et il réfléchissait à l'affrontement principalement entre les États et en outre, l'arme nucléaire n'existait pas. Nous sommes aujourd'hui dans un autre contexte, la multiplication des conflits, leur forme de plus en plus complexe et surtout le caractère interne des crises les plus nombreuses fait qu'il faut désormais se référer à une autre classification. Et c'est pourquoi, pour notre réflexion de ce soir, je me propose de m'en tenir à trois grands types d'affrontements qui sont le conflit nucléaire, qu'il soit virtuel, c'est-à-dire celui du jeu de la dissuasion, ou réel. Ensuite, le conflit de type classique, c'est-à-dire la guerre entre des États avec des moyens conventionnels. Et enfin, les crises internes aux États. Alors, regardons d'abord le conflit nucléaire. Il est heureusement demeuré virtuel durant toute la guerre froide. Ceux qui y participaient s'efforçaient d'ailleurs de maintenir les conditions de cette virtualité, comme je l'ai déjà indiqué, et l'accession de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la France à la puissance nucléaire n'a pas eu d'influence réellement significative sur le déroulement de la confrontation entre Moscou et Washington. La fin de l'opposition entre les blocs a modifié cette donne dans la mesure où la confrontation a fait place à la coopération avec une Russie déterminée à entretenir avec le reste du monde une relation fondée sur la paix et le développement. Et si les armes nucléaires existent toujours, la dissuasion est néanmoins devenue, pour le moment, implicite. Cependant, cette situation commence à se modifier, et ceci pour deux raisons. La première est la tentation américaine de développer un système de défense antimissile, la National Missile Defense, ou NMD, sorte d'avatar de la guerre des étoiles du président Reagan, destinée à préserver le territoire américain d'une agression nucléaire que pourrait lancer un État au comportement irrationnel. Ce projet des États-Unis pose beaucoup de questions. Y a-t-il d'abord une véritable menace? Si oui, n'y a-t-il pas d'autres moyens de s'en préserver? Et enfin, le risque de relancer une course aux armements n'est-il pas très lourd en regard de l'avantage de se doter d'une protection à l'efficacité non encore confirmée? On voit bien que ce débat américain fait ressurgir, cette fois-ci de manière explicite, le dossier de la dissuasion nucléaire. La Russie, naturellement, s'en inquiète et rappelle son attachement au traité ABM. Tandis que la Chine, dont les forces nucléaires sont encore relativement réduites, pourrait être encouragée à développer son arsenal stratégique en considérant que c'est en réalité à elle que pensent les États-Unis quand ils parlent, quand ils développent le projet de NMD. J'espère pour ma part que le prochain président américain ne franchira pas le pas du déploiement d'un tel système qui relancerait à l'évidence la course aux armements dans le monde. La seconde raison qui modifie sérieusement les perspectives de la dissuasion est l'accession à la puissance nucléaire d'autres pays que les cinq puissances reconnues, et notamment de l'Inde et du Pakistan. La dissuasion nucléaire telle que nous la connaissons, c'est-à-dire telle qu'elle a préservé la paix durant toute la guerre froide, repose sur une analyse rationnelle de leur vulnérabilité réciproque par les États nucléaires. Cette rationalité n'est peut-être pas celle qui existe entre l'Inde et le Pakistan. Ces deux puissances sont engagées dans une guerre larvée qui mobilise leurs opinions publiques. Et si les affrontements conventionnels devaient se développer et faire que l'un des deux camps estime que ses intérêts vitaux sont menacés, il n'est pas certain que l'on puisse contrôler le processus de la violence. Et éviter donc, dans le domaine nucléaire, de passer de la virtualité à la réalité. Il y a donc un risque qui n'est pas nul de guerre nucléaire en Asie, qui serait peut-être limité, mais dont les conséquences seraient à l'évidence considérables pour beaucoup de régions du monde, et en outre, le tabou nucléaire serait levé. Le deuxième type de conflit est donc celui des guerres classiques entre États dont la pertinence demeure. L'invasion du Koweït par l'Irak ou encore la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée en sont des exemples clairs. La fin du monde bipolaire, en supprimant les contraintes que faisait peser le maintien de l'équilibre stratégique entre les deux blocs, a d'une certaine façon laissé le champ libre à des affrontements régionaux. Cependant, en même temps, le développement des institutions internationales, qu'elles soient mondiales ou régionales, donne à la communauté internationale davantage de moyens pour limiter le recours à la force pour résoudre les oppositions et pour mettre un terme aux engagements par l'arbitrage, la médiation, etc. Le troisième type de conflit est celui des crises internes aux États, dont on voit bien qu'elles se multiplient partout dans le monde. Elles naissent d'oppositions ethniques, religieuses ou culturelles qui trouvent souvent dans le sous-développement un terrain favorable à leur naissance puis à leur croissance. L'émergence de ces crises est facilitée par une certaine indifférence des grandes puissances dès lors qu'elles concernent des zones dont l'intérêt stratégique a beaucoup diminué avec la disparition du monde bipolaire et que, par ailleurs, leur intérêt économique dans le système libéral qui domine aujourd'hui est limité. Le sous-développement s'y accroît de ce fait qui favorise l'instabilité interne des États. L'Afrique subsaharienne est la zone la plus touchée par ce processus, mais d'autres régions du monde sont également affectées. L'éclatement de l'Union soviétique et la disparition du bloc communiste sont une autre cause de l'extension des crises internes. Ainsi, le Caucase, l'Asie centrale et plus près de nous, les Balkans, n'ont pas résisté à la fin du monde bipolaire et sont les théâtres d'affrontements que seul un lent cheminement vers la démocratie fera se réduire, puis, espérons-le, disparaître. La communauté internationale est confrontée à cette situation d'un monde instable et incertain, et il lui faut désormais gérer cette phase de transition vers le nouvel ordre international auquel il faut prétendre. C'est à elle, et non, comme je l'ai dit, aux seules grandes puissances, qu'il revient de créer les conditions de la stabilité, de la paix et de promouvoir le développement. L'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, telles que, en Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, devraient être ainsi les acteurs essentiels du maintien de la paix dans le monde. Si on se place du point de vue du droit international, la compétence des Nations Unies est clairement reconnue lorsqu'il s'agit de conflits entre États. La Charte des Nations Unies a été bâtie sur le principe de la souveraineté des États et ses différents articles donnent au Conseil de sécurité la capacité de dire le droit. Il n'en est pas de même dès lors qu'il s'agit de crises internes et se pose alors le difficile problème de l'ingérence. Lorsque les droits de l'homme sont bafoués ou que des agressions sont commises contre des minorités au sein d'un État, le Conseil de sécurité est encore aujourd'hui largement incompétent. Cependant, sous la pression des opinions publiques, des avancées significatives ont été réalisées depuis la fin de la guerre froide, comme en témoignent par exemple les interventions en Irak au profit des Kurdes puis des chiites après la guerre du Golfe, l'intervention en Somalie ou encore plusieurs opérations en ex-Yougoslavie et encore récemment au Kosovo. Il reste néanmoins à compléter le droit international en ce domaine, comme cela a été fait en créant les tribunaux internationaux. En tout état de cause, c'est bien au Conseil de sécurité qu'il revient de légitimer une intervention quand celle-ci vise à rétablir le droit international battu en brèche par un État ou qu'elle s'attache à résoudre une crise interne. Ensuite, mais ensuite seulement, et avec un mandat précis, l'intervention militaire proprement dite pourra être le fait soit d'une force des Nations Unies, soit d'une organisation internationale ayant une capacité militaire, telle que l'OTAN et bientôt l'Union européenne, soit enfin d'une coalition ad hoc. Et cette intervention sera donc, dans la très grande majorité des cas, une intervention internationale. Les modes d'action que nous avons vus se développer pour le maintien ou le rétablissement de la paix, et qui devraient continuer d'être mis en œuvre dans les années à venir, peuvent se réduire à trois. Le premier est la coercition par la force aérienne qui vise à obtenir des parties en conflit qu'elles cessent leur affrontement sous peine d'être soumises à des frappes de l'aviation ou des missiles de croisière. C'est ce mode d'action qui a été employé dans la guerre du Golfe face à l'Irak ou plus récemment face à la Serbie, au Kosovo. Il présente l'avantage militaire de permettre de tirer le maximum de profit de la supériorité technologique et en même temps, bien sûr, de beaucoup réduire les risques de perte pour les forces qui interviennent. Au plan politique, la mise en œuvre de ce mode d'action est une sorte de pari sur le comportement des parties en cause. Si en effet la dissuasion joue et que l'adversaire potentiel s'incline devant la menace d'emploi de la force, le pari est gagné. Mais le risque existe de l'entêtement de l'un des deux camps qui, confronté à un ultimatum, fera alors le choix de la guerre. Dès lors, la violence s'ajoute à la violence et ce sont les populations, naturellement, qui en subissent les principales conséquences. Et la crise du Kosovo a bien montré les inconvénients d'un tel scénario. Le deuxième mode d'action est l'interposition, c'est-à-dire le placement de forces militaires internationales entre les parties qui s'opposent pour aider à arrêter les combats et stabiliser la situation. Ce mode d'action est celui qui a été utilisé à de nombreuses reprises en Croatie, puis en Bosnie. Mis en œuvre avec l'accord des parties, il présente l'avantage politique de permettre une intervention très en amont dans la crise, mais il comporte un risque sérieux au plan militaire si l'un des deux camps cesse à un moment donné d'appliquer les accords qu'il a signés. Les forces placées en interposition sont alors dans une position de très grande vulnérabilité entre les combattants et elles peuvent être prises à partie. Ce cas de figure s'est malheureusement présenté à plusieurs reprises en Bosnie avant que ne soient signés les accords de Dayton. La seule parade est de déployer des forces suffisamment puissantes et de disposer d'une force de réaction pour réduire la tentation pour l'une ou l'autre des parties de s'écarter de la règle du jeu. Et c'est ce que nous avons pu faire à l'été 1995, lorsque a pu être déployée en Bosnie une force de réaction rapide. Et le troisième mode d'action que je veux citer est naturellement l'occupation du terrain, qu'il se fasse avec l'accord de ceux qui s'affrontent ou qu'il se fasse par l'emploi de la force. Il vise à contrôler la zone occupée afin d'en assurer la sécurité tant interne que vis-à-vis de l'extérieur. Bon, ce mode a été utilisé en Somalie par les Nations Unies ou encore par la France au Rwanda dans l'opération Turquoise lorsque nous avons mis en place une zone humanitaire sûre afin de permettre d'arrêter les massacres. C'est celui qui est en cours, enfin, par l'OTAN en Bosnie et au Kosovo. L'occupation du terrain est en tout état de cause nécessaire après une campagne aérienne afin de concrétiser sur le terrain le résultat et de permettre de mettre en route le processus de résolution durable de la crise. Comme le mode d'interposition, cette occupation du terrain suppose le déploiement de forces relativement nombreuses et en mesure de faire face aux menaces militaires résiduelles. Cependant, ce mode d'action pose très vite le problème du maintien de l'ordre public, c'est-à-dire d'une justice, pour dire le droit, et de police ou de gendarmerie pour le faire respecter. Il est clair qu'il y a un besoin urgent pour l'avenir de fixer les conditions dans lesquelles les responsables d'une opération de maintien de la paix pourront fixer des règles de droit. Il faut ensuite des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, car celui-ci relève de techniques très spécifiques. Et c'est ce constat qui a conduit l'Union européenne à prévoir la création d'une telle capacité de maintien de l'ordre, d'un volume qu'elle a fixé à 5000 hommes, dans les moyens dont elle entend se doter dans un proche avenir pour la gestion des crises. Il faut ajouter enfin, et d'ailleurs insister sur ce point, que le rétablissement de l'ordre par les forces armées n'est que la condition préalable à l'engagement d'un processus de résolution durable de la crise qui n'est plus du ressort des militaires, mais qui relève d'une action politique et économique. Alors, dans ce contexte général d'un monde en transition, dans lequel la communauté internationale devrait progressivement jouer un rôle central pour le maintien de la paix, quelles sont les perspectives d'évolution des forces armées dans les différents pays? Bon, il est difficile d'apporter une réponse simple à une telle question, car chaque pays constitue en quelque sorte un cas particulier. Il appartient en effet aux responsables politiques de chaque État, dans l'exercice de leur responsabilité de souveraineté, d'apprécier les menaces qui pèsent sur le pays, d'évaluer dans son environnement régional les soutiens qui peuvent être obtenus, pour définir enfin, compte tenu des objectifs de politique étrangère retenus, la politique de défense du pays. Et on sait bien que la nature du régime, ses ambitions régionales ou mondiales, représentent à l'évidence des éléments importants dans le choix qui est fait par chaque pays de son système de force. Ainsi, par exemple, on a vu un régime irakien se doter progressivement de très importantes capacités militaires avant de se lancer dans des aventures qui l'ont conduit à la ruine. À l'inverse, certains autres pays font le choix de privilégier le développement économique en s'efforçant d'assurer leur sécurité par le recours à des protecteurs. S'il n'est donc pas aisé de catégoriser les différentes armées qui se développeront dans le futur, il est possible néanmoins de dégager des grandes tendances d'évolution pour l'avenir avant d'examiner plus en détail les capacités requises d'une armée moderne. La première de ces tendances est la recherche d'un progrès qualitatif des forces au détriment de leur volume. Cette tendance résulte de la sophistication croissante des armements, fruit des avancées technologiques, qui s'étend à tous les domaines. La complexité des moyens utilisés s'accroît donc considérablement, et ainsi, après être passé de l'arme au système d'armes, on en vient aujourd'hui à un nouveau concept qui est celui des systèmes de systèmes. Ainsi, l'efficacité d'une armée moderne ne tient donc plus seulement à la quantité d'armement qu'elle détient, ni même à la modernité de ses systèmes d'armes. Elle repose et reposera de plus en plus sur la possession des systèmes très complexes qui sont requis, par exemple, pour la conduite des opérations dans l'ensemble de l'espace aérospatial ou dans l'ensemble de l'espace aéroterrestre. L'Irak a bien illustré cette évolution. Il disposait sur le papier de la 4e ou 5e armée du monde par la seule addition des armes qui constituaient ses forces. Mais il s'est montré incapable, face à la coalition, de conserver le contrôle de son espace aérien. Sa défense aérienne et son aviation ont été annihilées et dès lors, sa défaite n'était plus qu'une question de temps. La deuxième tendance qui découle de la première est que les opérations militaires modernes seront de plus en plus des opérations combinées, c'est-à-dire mettant en œuvre des forces de différentes natures dont il faut coordonner les actions. Ainsi, les opérations sont ou seront désormais non seulement interarmes, c'est-à-dire combinaison par exemple des blindés et de l'infanterie sur le champ de bataille, mais aussi interarmées, associant les moyens spécifiques des trois armées, marine, armée de l'air et armée de terre. C'est cette constatation qui a conduit, il y a quelques années, le Canada à fusionner ces trois armées en une seule. En France, nous avons pensé qu'il n'était pas souhaitable d'aller aussi loin, et nous avons donc concentré nos efforts pour créer une véritable organisation de commandement interarmée sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Et afin de pérenniser cette mutation, les trois écoles supérieures de guerre ont été fondues en un seul ensemble, le Collège interarmée de défense, dont l'objectif est non seulement de former les officiers aux opérations interarmées, mais aussi, je dirais peut-être surtout, de développer l'esprit interarmée qui est désormais essentiel. La troisième tendance est le passage des armées de conscription à des armées professionnelles. Elle trouve sa justification, d'une part, dans la modification de la menace qui, en Europe notamment, a fait passer du concept de défense à celui de sécurité. Il s'agit de plus en plus pour les armées de beaucoup des grandes puissances, dans le nouvel ordre international qui s'établit, de contribuer à la gestion des crises plutôt que d'être en mesure de contrer une menace directe contre le territoire national. La deuxième raison est la sophistication croissante des armements qui s'accommode difficilement d'un service militaire dont la durée est généralement égale ou inférieure à une année. Certes, le service militaire permet aux armées de disposer dans certains domaines de personnel déjà formé, mais tels que des informaticiens, des scientifiques, etc. Mais dans l'ensemble, la formation et l'entraînement requis pour la mise en œuvre des systèmes d'armes modernes sont et seront de plus en plus trop longs et trop coûteux pour être dispensés à des appelés qui ne sont présents sous les drapeaux que pour un temps court et ne peuvent être facilement employés en opération extérieure. Ainsi, la France, la Belgique, d'autres se sont engagés dans la professionnalisation de leurs armées, de leurs forces, tandis que la République fédérale d'Allemagne elle-même a entrepris une évolution en ce sens, sans cependant, pour des raisons qu'on peut comprendre, renoncer encore formellement à la conscription. Ce changement considérable dans la nature des forces, si elle trouve sa justification du point de vue opérationnel, n'est pas sans présenter par ailleurs de sérieux inconvénients, et j'en citerai à titre personnel deux. Le premier est la suppression d'un lieu d'intégration de la société à une époque où les migrations de population sont relativement importantes. Le service militaire est en effet un temps qui permet de rassembler les jeunes de toutes origines autour de l'idée de nation. D'autres lieux d'intégration existent, et d'abord l'éducation nationale, mais on peut peut-être regretter la perte de celui du service militaire. Le second risque est le risque d'isolement de l'armée dans le pays. Les forces armées ont besoin du soutien de l'opinion, et ceci est particulièrement vrai dans les opérations extérieures. Le maintien du lien armée-nation est probablement plus difficile à réaliser avec une armée professionnalisée. Je dois enfin citer une quatrième tendance générale qui est, dans l'évolution des concepts d'emploi des forces, le souci croissant de donner une priorité élevée à la réduction des pertes pour les forces engagées. Le concept de zéro mort, qui s'est développé aux États-Unis, notamment à cause du Vietnam, commence à faire son chemin en Europe. Les responsables politiques prennent conscience de cette nouvelle contrainte qui s'impose lorsque les opérations ne sont pas directement reliées à la défense du territoire national. C'est pourquoi ils sont enclins à choisir des modes d'action opérationnels qui mettent à profit la supériorité technologique pour imposer la force avec le minimum de risque. Si l'on regarde maintenant les capacités qui sont requises pour constituer une armée moderne, c'est-à-dire adaptée tant à l'évolution des concepts opérationnels qu'aux progrès technologiques, on peut distinguer d'une part des capacités que je qualifierais de classiques, qui sont celles qui permettent de mener un combat terrestre, aérien ou maritime. Toutes les armées, tous les États du monde disposent, à des niveaux évidemment différents, de moyens correspondants en termes d'avions, de chars ou de navires de guerre. Mais à côté de ces capacités classiques, d'autres capacités générales ou globales qui sont l'apanage des puissances mondiales ou régionales et qui couvrent un ensemble de domaines beaucoup plus large, allant de la dissuasion nucléaire à la projection des forces loin du territoire national. On les qualifie quelquefois de multiplicateurs de forces. Et ce sera finalement la cohérence obtenue dans le dosage entre les capacités classiques et les capacités générales ou globales qui déterminera la qualité d'un système de force considéré. L'investissement dans les capacités militaires n'est pas seulement matériel, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, pour disposer d'une armée moderne efficace, d'accumuler des moyens. Il faut en plus disposer des hommes formés et entraînés à la mise en œuvre des systèmes complexes. Il faut aussi que dans l'État, les responsables politiques, diplomatiques et militaires soient organisés pour élaborer une doctrine de défense, puis déclencher le processus de décision politico-militaire qui est un préalable aux opérations militaires proprement dites. Et au sein des forces elles-mêmes doit exister une organisation de commandement opérationnel qui soit capable de constituer les groupements de forces nécessaires à l'exécution des missions confiées par l'échelon politique, puis de les engager de manière totalement coordonnée. Nous avons en France, je le crois, aujourd'hui, l'une des meilleures organisations qui existent au monde et qui est bien adaptée aux caractéristiques du pouvoir exécutif français. Alors qu'aux États-Unis, régime présidentiel, existe un organe spécifique, le Conseil national de sécurité, à la disposition du président pour définir les actions à entreprendre. Dans notre pays, c'est au sein de conseils ministériels restreints, auxquels participent le Premier ministre, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères et le chef d'état-major des armées, que le président de la République élabore ses décisions. Ces réunions de conseil, dont le rythme est adapté à la situation internationale, il peut y en avoir quelquefois plusieurs par jour, généralement un par semaine, sont préparées par une cellule de crise qui fonctionne au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, et à laquelle participent les différents ministères concernés par la crise. Ainsi est assurée la cohérence des décisions politico-militaires lorsque le président, chef des armées, est en mesure de donner ses instructions aux diplomates d'un côté, bien sûr, mais aussi au chef d'état-major des armées, et ceci en présence du Premier ministre et du gouvernement. Et ensuite, dans le domaine militaire, il appartient au chef d'état-major des armées, qui est responsable de la conduite des opérations militaires, de diriger et de coordonner la chaîne opérationnelle à partir du centre opérationnel interarmée, et ceci jusqu'à l'engagement des forces. Mais revenons aux capacités générales ou globales que je vais rapidement décrire et analyser. La première est l'existence d'un système de recueil du renseignement, car la connaissance de la situation est la base de toutes les opérations. Bon, les composants d'un tel système sont bien connus, ce sont des satellites d'observation, optiques et radars, des satellites et des stations d'écoute, des avions et des drones de reconnaissance, et bien sûr, sur le terrain, il ne faut pas l'oublier, tout à fait essentiel, le renseignement humain. Ces différents moyens sont complémentaires. Par exemple, un satellite optique est gêné par les nuages et il est souvent nécessaire de compléter sa vision par les images d'un satellite radar. Les satellites d'observation eux-mêmes tournent autour de la Terre et leur production est donc périodique. Il est utile de disposer d'autres moyens pour se rapprocher de la continuité de l'information. Le recueil seul n'est pas suffisant et il faut ensuite traiter les informations et les acheminer vers ceux qui, dans la chaîne opérationnelle, en ont le besoin. on voit bien qu'il s'agit d'un système extrêmement complexe, requérant des moyens informatiques et de communication très sophistiqués. La possession d'une telle capacité, même partielle, est fondamentale pour un pays ou un groupe de pays s'il veut disposer d'une certaine autonomie dans sa prise de décision politico-militaire. Aujourd'hui, seuls les États-Unis et la Russie détiennent la totalité des moyens d'un tel système, mais la France et bientôt l'Europe ont décidé de se donner la capacité d'agir de manière autonome. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé en France avec les Italiens et les Espagnols le satellite d'observation optique Helios et que nos amis allemands envisagent de fabriquer des satellites radars. Et ainsi, progressivement, l'Union européenne sera-t-elle en mesure de disposer de son propre système de renseignement, élément indispensable à une gestion autonome des crises. La deuxième capacité générale que je citerai est celle de commandement. Elle correspond à l'ensemble des systèmes informatisés mis en œuvre par les différentes forces et aux moyens de transmission qui les relient. Disposer d'un système de commandement qui assure en temps réel une parfaite intercommunication entre les états-majors et les forces jusqu'aux plus bas échelons de l'action est un facteur d'efficacité. Mais il faut aussi que ce système puisse être connecté avec ceux des autres pays qui interviennent ensemble dans une opération. Et aujourd'hui, c'est une des fonctions importantes du NATO, de l'OTAN, que d'être le lieu où se définissent les principales normes d'interopérabilité entre les systèmes. La troisième capacité globale que je citerai est la capacité de dissuasion nucléaire. Je n'y insisterai pas car elle est bien connue, je dirais simplement, prenant le cas français, que nous entendons continuer à disposer dans l'avenir, d'une force de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceci étant capable de frapper des objectifs à des distances très considérables. La quasi-invulnérabilité des SNLE fait que cette composante ne serait pas atteinte par une première frappe adverse, elle est donc ce qu'on appelle une capacité de seconde frappe. Et deuxième composante, des missiles air-sol, lancés soit par des avions de l'armée de l'air, soit par des avions opérant à partir des porte-avions, qui permettraient, sur décision du président de la République, de donner ce qu'on appelle un ultime avertissement à un agresseur pour lui indiquer que son action franchit le seuil de nos intérêts vitaux. Et chacun des pays nucléaires entend disposer au moins de ces deux types de composantes à des valeurs et des performances, à des volumes et des performances diverses. La capacité de frappe de précision à grande distance est une quatrième capacité générale. Elle est aujourd'hui le fait de missiles de croisière dont la portée est de l'ordre du millier de kilomètres qui sont lancés par des navires ou des avions. La trajectoire de ces missiles est à très basse altitude, ce qui, en dépit de leur vitesse relativement limitée, un peu inférieure à celle du son, leur donne une très bonne protection. Et ils frappent leurs objectifs avec une extrême précision, de l'ordre du mètre ou de quelques mètres. Et ce sont ces armements, vous le savez, qui ont été employés d'abord dans la guerre du Golfe et plus récemment encore au Kosovo. La mise en œuvre de ces missiles oblige à disposer d'un véritable système qui va de l'observation des objectifs jusqu'au guidage terminal de l'arme. La décision de frappe relève normalement du plus haut niveau de l'État ou de l'alliance qui conduit les opérations. Le choix des types d'objectifs est en effet une responsabilité politique que les autorités de l'exécutif n'entendent pas déléguer à un commandant d'opérations sur le terrain, et vous savez que ceci a fait débat pendant la crise du Kosovo. D'une certaine façon, une telle capacité de frappe de précision à grande distance requiert une organisation comparable à celle de la dissuasion nucléaire. Et nous réalisons en France un missile de croisière, le SCALP, qui devrait entrer en service dans les toutes prochaines années. Bon, je veux citer une dernière capacité générale, qui est celle de la projection des forces à distance. cette capacité vise à permettre le déploiement rapide à grande distance des bases nationales, de groupements de forces significatifs, puis à assurer leur protection et leur soutien logistique. Et les moyens requis sont tout à fait connus. Il s'agit d'avions de transport lourds ou moyens, d'hélicoptères, de navires, transport d'éléments terrestres ou transport d'hélicoptères de combat. L'aptitude à débarquer en force par des opérations amphibies est un complément qui peut être parfois nécessaire. La protection des forces déployées, ceci est très important et relativement nouveau, doit pouvoir être assurée, et notamment, comme l'ont montré les opérations de la guerre du Golfe, il faudra désormais être capable de contrer la menace des missiles balistiques de courte et moyenne portée, tels que les SCUD qu'avaient utilisés les Irakiens. Et ceci suppose de détenir, pour la protection des forces déployées, des systèmes de missiles anti-aériens ayant la longe et la précision nécessaires pour détruire les têtes de missiles balistiques pénétrant à grande vitesse. Le système Patriot américain, qui avait été déployé en Israël et en Arabie Saoudite, a, dans certaines limites, une telle capacité. Nous travaillons à d'autres systèmes en France et en Europe. Face à de tels missiles balistiques de relativement courte portée, l'existence d'un moyen d'alerte qui permet d'observer le départ des missiles dans leur phase de combustion et de déterminer leur trajectoire n'est pas absolument nécessaire, mais il représente néanmoins un complément utile. Un tel moyen d'alerte peut être un satellite géostationnaire, tel qu'en possèdent les États-Unis ou la Russie, ou un drone opérant à très haute altitude et équipé de capteurs infrarouges. Alors ce sont, je l'ai dit, ces diverses capacités générales qui, ajoutées aux capacités classiques que je vais maintenant très rapidement décrire, qui détermineront à l'avenir le niveau des armées. Et à l'évidence, maintenant que l'URSS a disparu et que la Russie n'en assurera pas la succession avant de nombreuses années, c'est le modèle des armées américaines qui est le modèle pour tout le monde. Les capacités classiques, comme je l'ai indiqué, recouvrent les moyens de conduire des opérations dans trois milieux très différents, qui sont l'espace aérospatial, l'espace aéroterrestre et l'espace aéromaritime. Du point de vue conceptuel, l'espace aérospatial est peut-être celui qui sera le moins marqué, du moins en apparence, par les mutations technologiques. C'est qu'il a beaucoup, sans doute, jusqu'à chaque jour, bénéficié de l'effort de modernisation. Dans cet espace, l'objectif recherché est d'en assurer le contrôle, c'est-à-dire d'en dénier l'usage à l'adversaire. Dans l'espace aérien national, ce sont les systèmes de défense aérienne qui sont chargés de conserver pour l'État le contrôle de notre espace. Les progrès se situent dans la performance des radars, notamment face à des avions et des missiles attaquants de plus en plus furtifs, et dans l'efficacité des missiles qui doivent résister au brouillage offensif adverse. Inversement, s'il s'agit de prendre contrôle de l'espace aérien de l'adversaire, il faut détruire d'une part son infrastructure radar et transmission afin de rendre inopérant le système de défense aérienne. Ceci est fait par les missiles de croisière, puis par les avions d'attaque, dont la furtivité, alliée à la précision de leurs missiles, sera à l'avenir la qualité essentielle. Et il faut d'autre part réduire l'aviation de défense aérienne adverse en l'attaquant au sol si possible et en l'engageant ensuite en l'air par des avions de défense aérienne guidés par des gros avions radars, c'est-à-dire par des AWACS. Et dans la guerre du Golfe, vous vous en souvenez, très rapidement, les missiles de croisière et les bombardiers furtifs F-117 ont réduit à l'impuissance les systèmes de défense aérienne irakiens. L'aviation de Bagdad, faute de pouvoir être mise en œuvre à partir du sol, s'est réfugiée en Iran. Et dès lors, le contrôle de l'espace aérien irakien à haute altitude était acquis et l'effort apporté sur les batteries de missiles qui ont été progressivement éliminé. En quelques jours, la coalition a pris le contrôle de la totalité de l'espace aérien irakien, et à partir de ce moment, elle a pu consacrer ses moyens d'attaque à la destruction des forces terrestres. Et on connaît la suite. Au Kosovo, la situation a été plus complexe parce que l'OTAN a voulu limiter ses attaques d'abord au Kosovo. Elle n'a pas réellement entrepris d'annihiler le système de défense aérienne serbe. L'aviation alliée a acquis très vite le contrôle de ce qu'on appelle l'espace aérien supérieur, c'est-à-dire à très haute altitude, mais elle a rencontré beaucoup plus de difficultés dans l'espace inférieur en raison de conditions météorologiques qui gênaient beaucoup les attaques et des tactiques utilisées par les Serbes qui reposaient sur la mobilité, sur le leurrage. Et c'est ce qui explique que les forces aériennes de l'OTAN aient conduit l'essentiel de leurs attaques à haute altitude avec les risques de méprise que l'on a pu constater. L'espace aéroterrestre, quant à lui, est celui qui, à l'inverse, devrait voir les progrès les plus importants se réaliser dans l'avenir. Le premier de ces progrès, qui est déjà en cours, est la capacité, par une combinaison de moyens, d'établir en temps réel la situation des forces amies et des forces adverses sur le terrain. La détection sera de plus en plus le fait d'avions ou d'hélicoptères équipés de radars qui utilisent en particulier l'effet Doppler permettant la localisation et l'identification des mobiles. Des drones, c'est-à-dire des aéronefs sans pilote, opérant à basse ou moyenne altitude et porteurs de détecteurs optiques ou de systèmes d'écoute, compléteront l'aviation, l'action des aéronefs radars. Toutes les interventions sont centralisées puis redistribuées aux forces amies sur le terrain, terrain qui aura lui-même été numérisé à cette fin. À partir de cette connaissance de la situation, le deuxième domaine de progrès est dans la capacité des systèmes d'armes agissant dans cet espace, c'est-à-dire l'infanterie, les blindés, l'artillerie et les hélicoptères armés qui devront pouvoir opérer de nuit ou par mauvais temps. Et cette capacité tout temps, qui est déjà largement acquise, va modifier profondément la physionomie du combat terrestre qui pourra se dérouler de manière continue, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à la nuit. Le troisième domaine de progrès est celui de la portée et de la précision des missiles offensifs qui sont utilisés tant par les forces terrestres elles-mêmes que par les hélicoptères armés ou l'aviation d'assaut qui leur apporte le soutien. Le fantassin lui-même, enfin, disposera de plus en plus d'un ensemble de moyens particulièrement élaborés de positionnement et de vision tout temps qui accroîtront à la fois sa sécurité et son efficacité. On conçoit que l'entraînement à un combat d'une telle complexité, fortement dépendant de la nature du terrain comme des conditions météorologiques, implique de disposer de centres spécialisés où l'on tente de reproduire les conditions du combat, mais où l'on cherche aussi à quantifier l'efficacité des acteurs. Ce combat dans l'espace aéroterrestre demeurera cependant largement tributaire des qualités du combattant individuel. Et c'est sans doute dans les opérations terrestres que l'homme continuera, malgré tous les progrès technologiques, à jouer le rôle le plus central. C'est ainsi, par exemple, que des partisans opérant sur leur propre territoire, avec des armements légers et manifestant une extrême mobilité, poseront toujours beaucoup de problèmes à des unités terrestres modernes. Il en sera de même dans le combat de rue, qui est le cauchemar des forces terrestres, qui réduit beaucoup, sinon totalement, l'avantage que procure la technologie. Troisième espace, enfin, à considérer, c'est l'espace aéromaritime, qui lui-même est partagé en deux selon qu'on est au-dessus de la mer ou en dessous de la mer. L'espace maritime sous la mer trouve sa spécificité dans le fait que les ondes radar n'y pénètrent pas et que, dans les ondes radio, seules les très basses fréquences peuvent y être reçues jusqu'à une profondeur de quelques mètres. Cet espace est donc celui des ondes sonores ou ultrasonores. Les sous-marins qui opèrent dans cet espace chercheront donc à être les plus silencieux possibles afin de ne pas être détectés par les systèmes d'écoute, que ceci soit des stations d'écoute à terre, des bâtiments de surface ou d'autres sous-marins, ou encore des avions de patrouille maritime utilisant des bouées. Dans l'avenir, les sous-marins les plus modernes, que leur système de propulsion soit l'énergie nucléaire ou une propulsion classique, ces sous-marins émettront à basse vitesse un bruit propre qui sera inférieur au bruit ambiant de la mer. Dès lors, leur détection ne sera possible que par l'emploi de sonars actifs, c'est-à-dire émettant des ondes sonores ou ultrasonores dont la portée demeurera réduite, quelques dizaines de kilomètres au maximum, et dont l'indiscrétion sera bien sûr très grande. Bon, l'espace sous-marin océanique est le lieu de déploiement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui trouvent, en patrouillant à basse vitesse, des conditions d'invulnérabilité quasi totales. Ce contrôle de l'espace sous-marin peut s'avérer nécessaire dans les zones, dans des zones déterminées, afin de permettre la navigation en sécurité des forces et du trafic marchand. Et il suppose le déploiement d'un grand nombre de moyens aptes à traquer les sous-marins adverses. Ce sont des avions de patrouille maritime, des hélicoptères, des bâtiments de surface ou des sous-marins nucléaires d'attaque. L'acquisition de ce contrôle est très proche dans sa conception de la chasse, j'allais dire de la chasse aux sangliers. Il faut des chiens pour lever le gibier, et il faut des hommes postés, des tireurs postés pour le détruire. Au-dessus de la mer, la situation est tout à fait différente, et notamment le contrôle de l'espace aérien. Il fait appel à des techniques qui sont identiques à celles utilisées au-dessus de la terre. Simplement, les bases aériennes à terre sont complétées ou remplacées par les porte-aéronefs qui mettent en œuvre des avions d'assaut de défense aérienne et des hélicoptères. Les espaces maritimes sont en dehors des eaux territoriales, et ceci est tout à fait important, d'un usage libre du point de vue de leur statut juridique international. Ils permettent donc le déploiement sans contrainte politique des navires de combat qui agissent au profit des opérations à terre pour lancer des missiles de croisière, mettre en œuvre l'aviation embarquée ou débarquée des forces terrestres acheminées par des bâtiments de transport. Dans le monde d'aujourd'hui, seules les 5 puissances nucléaires disposent des moyens d'agir dans les espaces océaniques, c'est-à-dire en haute mer, avec la gamme complète de moyens. Cependant, un certain nombre d'autres marines, notamment européennes, ont de réelles capacités océaniques, y compris dans le domaine sous-marin. Et parmi les moyens qui déterminent le niveau d'une marine à capacité océanique, il faut citer le porte-avions, qui est à l'évidence la pièce maîtresse, et en particulier le porte-avions à catapulte, dont seules les marines américaines, russes et françaises disposent aujourd'hui. L'avantage de la catapulte est de permettre l'emploi d'avions de combat aux performances équivalentes à celles des avions opérant à partir des bases à terre, alors que les avions à décollage vertical, qui avaient un temps paru une solution intéressante, sont largement pénalisés par les contraintes de leur motorisation. Mais si on excepte ces grandes marines, dans le reste du monde, la capacité d'action en mer est le plus souvent limitée aux moyens de contrôle des approches maritimes du territoire par une combinaison de radars et de batteries côtières, d'hélicoptères de surveillance armés et de vedettes rapides équipées de missiles antinavis. Il me faut maintenant conclure ce très large tour d'horizon que j'ai fait sur les perspectives de conflit et sur l'évolution des capacités militaires dans le monde. Et je voudrais alors faire trois brèves remarques. La première est que nous vivons, comme je l'ai dit, une phase de transition vers un nouvel ordre international et que dans cette phase, le monde demeurera tout à la fois incertain, instable et finalement dangereux. La vigilance s'impose pour ne pas être surpris, car rien n'est définitivement acquis dans le domaine international. Ma deuxième remarque est que l'Union européenne a un rôle essentiel à jouer pour que le nouvel ordre qui s'établira soit un ordre de paix, de stabilité et de développement, effectivement géré par la communauté internationale. La mise en œuvre d'une politique étrangère commune et la réalisation d'une réelle capacité de gestion autonome des crises sont des objectifs extrêmement importants auxquels il sera nécessaire de consacrer à l'avenir davantage de moyens. L'Union européenne restera liée aux États-Unis dans le cadre d'une alliance atlantique, elle-même rénovée, qui prendra la forme d'un partenariat euro-américain, mais nous rendrions un mauvais service à nous-mêmes comme à la communauté internationale si nous ne donnions pas à l'Union européenne la capacité d'assumer ses responsabilités à l'échelle mondiale. Les décisions ont été prises, il reste à en assurer la réalisation avec détermination. La France, enfin, dans l'Europe qui se construit, a un rôle spécifique à jouer. Depuis 1958, avec l'acquisition d'une capacité autonome de dissuasion nucléaire, nous avons développé une politique de défense qui a combiné autonomie de décision pour la défense de nos intérêts vitaux et solidarité avec nos partenaires de l'Alliance Atlantique. Notre espace de sécurité est désormais l'espace européen et nous avons, avec nos amis britanniques en particulier, à apporter à l'Union européenne notre expérience et nos compétences en matière de défense. Ceci implique que nous acceptions d'allouer des ressources budgétaires suffisantes au développement de nos capacités militaires. Le budget français de la défense, si vous le regardez, a été logiquement adapté à la réduction de la menace. Il me semble aujourd'hui qu'il est temps de reprendre nos efforts afin de ne pas être surpris par les événements et surtout d'être en mesure de peser sur l'évolution de l'Europe et sur celle du monde. Je vous remercie de votre attention.
Un petit peu du civil, comme il a été dit, et du militaire. Vous avez parlé de la circonscription en regrettant celle-ci comme un facteur d'intégration de différentes catégories de la population et comme un danger d'ignorance en cas de guerre entre la population et l'armée dans un conflit extérieur. Cela rappelait, ni vous ni le conférencier d'hier n'ont prononcé l'expression de défense civile, au moins au sens d'une force organisée impliquant la population, qui semble n'être pas sans importance en cas de conflit intérieur. Que faire en cas d'agression classique ou nucléaire ou chimique, comme disait le précédent intervenant? De ce fait, je pose deux petites questions. Premièrement, une certaine défense civile, dont on ne parle jamais dans le public, dans les médias, est-elle à votre sens utile pour les militaires et ne doit-elle pas être en osmose avec la défense militaire? Et deuxième question, cette réhabilitation de la défense civile, si vous en voyez l'intérêt, ne serait-elle pas alors l'un de ces facteurs d'intégration des éléments de la nation dont vous avez regretté la disparition en parlant de celle de la conscription? Merci.
Alors, d'abord, pour répondre globalement à votre intervention, je dirais que si on a tendance à ne pas parler aujourd'hui ou à ne pas insister sur la défense civile, c'est parce que les missions confiées aux forces et d'une manière générale l'action extérieure de la France, de l'Europe, ce sont des missions qui se passent en dehors du territoire national. Et donc, ça n'est pas chez nous que nous avons un problème. Bon, la défense civile était au cœur des réflexions durant toute la guerre froide et beaucoup de travaux avaient été faits. Les services du Premier ministre qui ont la responsabilité principale d'organiser cette défense civile, et notamment avec un organisme qui est le secrétariat général pour la défense nationale. Ceci étant, on voit bien aujourd'hui qu'à l'intérieur de nos États apparaissent d'autres formes de menaces, d'autres difficultés auxquelles, au fond, les populations sont confrontées. Alors, dans l'organisation militaire française, on a confié, à partir de la fin de la guerre froide surtout, aux commandements régionaux de l'armée de terre le soin de coordonner l'action des armées, des trois armées, pour apporter un soutien à l'administration civile. Et dans cette fonction, les commandants régionaux de l'armée de terre relèvent directement du chef d'état-major des armées. Autrement dit, on ne fait pas de distinction de nature entre une action qui serait menée sur le territoire national ou en dehors du territoire national. Mais il est tout à fait clair que la défense civile se place dans un contexte de droit qui est assez complexe. On ne peut faire intervenir les forces armées sur le territoire national que dans le cadre de réquisitions avec des procédures qui sont extrêmement formelles. Donc je crois que cette défense civile est tout à fait importante. Alors est-ce qu'elle peut être le moyen d'apporter, de compenser un peu la perte d'intégration liée à disparition du service militaire? Je n'en suis pas sûr parce que j'ai le sentiment que ces actions qui sont menées sont des actions très, très spécifiques, qui font appel à des moyens souvent très spécialisés, et que je ne crois pas que ce soit autour de cela qu'on puisse construire un véritable esprit de défense à l'intérieur du pays. Je crois qu'il faut penser davantage à un ensemble de moyens. Vous avez eu des missions de députés de l'Assemblée qui ont fait des travaux tout à fait intéressants sur ce sujet. Mais je crois que le problème est devant nous en France et que c'est dans les années qui viennent qu'il va falloir s'efforcer de réaliser le lien armée-nation dans le nouveau contexte d'emploi de nos forces.
La séance de questions devant être écourtée. On va prendre une dernière question de monsieur.
Bonsoir. Quatre petits éléments. Je voudrais savoir que pouvez-vous nous dire, vous, aujourd'hui, de l'état de l'armée russe? On a vu l'affaire du Koukhs, des militaires qui ne perçoivent plus de soldes, avec une armée anciennement puissante, quelques-uns qui partent sur des pratiques mercenaires, un peu ce que ça peut prendre comme risque. La deuxième question, c'est autour de Vigipirate. L'armée aujourd'hui, enfin on le voit dans Vigipirate, où l'armée est impliquée sur des questions de sécurité intérieure. Et donc, est-ce que ça, vous ne l'avez pas développé, est-ce volontaire de votre part, ou est-ce... Où y a-t-il une piste de ce côté-là, enfin de développement des forces armées? Puis les deux dernières, c'est le lien, l'isolement que vous avez évoqué des forces armées. Donc le monsieur vient de poser une question, mais moi j'ai une autre question autour de l'IHEDN. S'il n'y a pas un développement à faire là, de renforcement autour du IHEDN, qui permet quand même une relation plus étroite, et puis peut-être de l'ouvrir davantage à des publics autres que ceux pour qui... que pour ceux qui bénéficient jusqu'à maintenant du IHEDN. Et la dernière chose, c'est la recherche industrielle. Vous avez évoqué la nécessité de recherche. Et on est aussi devant des multinationales. Et ça pose quand même, pour moi, des questions de coût et de sécurité.
Oui, Bon, il est clair que je ne vais pas répondre à toutes ces questions parce qu'on en aurait pour deux heures. D'abord, un mot sur l'armée, les forces armées russes. Je crois que les forces armées russes sont confrontées aux problèmes que nous avons nous-mêmes et que les armées occidentales ont connus, c'est-à-dire un changement radical dans l'ordre international et donc dans les menaces et les concepts d'emploi. Ce qu'il y a, c'est que l'armée russe était une énorme armée et puis qu'elle est amenée à se réduire pour s'adapter aux besoins russes. Simplement, ils font ça avec des ressources budgétaires qui sont extraordinairement limitées et par ailleurs dans un pays dont on peut constater une certaine désorganisation. Donc le passage d'une armée adaptée au monde bipolaire, qui était l'armée la plus importante du monde avec celle des États-Unis, à une armée adaptée aux véritables besoins de la Russie moderne ou de la Russie du futur, c'est une tâche extrêmement importante. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ceci se fasse, je dirais, dans le calme, et que, au fond, cette armée ne soit pas tentée à un moment donné de mener des actions qui seraient nuisibles à la communauté internationale et à la Russie elle-même. Mais pour l'instant, on n'a pas d'exemple qui aille dans le sens de ce que je veux dire. Bon, un mot sur l'IHEDN. Je crois qu'il y a des réflexions en cours pour l'évolution de cet organisme tout à fait, de ce centre de formation tout à fait remarquable, qui a pour objet de mélanger les responsables civils et les responsables militaires. Je crois qu'on veut chercher à étendre les actions de cet organisme, à peut-être lui donner une certaine capacité de recherche. Il y a des pistes qui sont ouvertes. Je crois que c'est un chantier, c'est un grand chantier qui est devant le gouvernement et devant les forces armées, qui est celui de la relation d'une armée professionnalisée avec la nation dans un pays qui lui-même sera de plus en plus intégré à l'Europe. Je crois qu'il y a là un très grand chantier. Ça prendra beaucoup de temps et il n'y a pas de raison qu'on ne réussissent pas à faire ce qu'on a, ce qui serait nécessaire de faire.
Merci, amiral.